RMC, les grandes gueules.
C'est Emma Aziza qui est avec nous, un visage qui commence à vous être familier maintenant si vous suivez les chaînes info. Lorsqu'il y a ces problèmes de pluie ou de sécheresse, on a besoin d'avoir un avis scientifique basé simplement sur des données brutes. Bonjour Emma Aziza.
Bonjour.
Vous êtes hydrologue et docteur de l'école des mines de Paris. Donc, pas d'idéologie avec vous, vous n'êtes pas politique.
Non.
D'accord. Donc là, depuis quelques jours, on nous dit, on va à la catastrophe. Des communes ne vont plus avoir du tout d'eau. La Haute-Corse n'aura peut-être plus d'eau potable dans 15 jours. Est-ce qu'on se fait peur ou c'est vrai ?
Je pense que c'est vrai et en fait c'est quelque chose qu'on était capable de voir dès le mois de février-mars. Donc c'est peut-être plus la question qu'il faut se poser, c'est que cette année est une année vraiment particulière parce qu'on n'a pas eu de recharge pendant l'hiver. Et donc si vous n'avez pas ces masses d'eau qui nous permettent de tenir pendant le printemps et l'été, on sait déjà qu'on va courir à la catastrophe. Après, si on prend un tout petit peu plus de recul et qu'on regarde les 5 dernières années, on se rend bien compte qu'on est sorti en fait d'une variabilité naturelle du climat où on avait des sécheresses, on avait des inondations dantesques, mais finalement qui arrivaient tous les 50, 100 ans, etc. Et là, en fait, on est en train de basculer dans une ère nouvelle où chaque année, on a un événement toujours un peu plus grave, toujours différent de l'année précédente, mais par contre avec toujours le même résultat, une sécheresse historique. Et si juste on regarde l'année dernière qui a été très pluvieuse sur la France, on se rappelle tous d'un été particulièrement maussade et froid, et qu'on prend un tout petit peu plus de recul, on se rend compte que tout autour de cette situation très particulière qui a été à l'origine des inondations de la Belgique et de l'Allemagne, eh bien en réalité, on avait un dôme de chaleur en Espagne, on avait 48,8 degrés en Sicile, on avait des feux immaîtrisables en Grèce ou en Algérie. Donc, on se rend bien compte qu'il y a quelque chose de nouveau et c'est un petit peu ce qui est en train de se dessiner dans notre futur. Et si on n'a pas réagi cette année, au moins il va falloir se poser des questions.
Oui, mais là concrètement, dans la centaine de communes qui sont déjà privées d'eau potable, que va-t-il se passer dans les semaines et dans les mois à venir ou même d'ici la fin de l'année? Alors, dans quelle situation vont-elles se retrouver?
Alors, il y a plusieurs scénarios. Le premier, c'est qu'on ait des pluies, peut-être pas en septembre, mais plutôt à partir d'octobre, c'est-à-dire après la période d'équinoxe. Souvent, ce sont des précipitations méditerranéennes qui peuvent remonter sur la France, qui vont être plutôt diluviennes. Et donc, elles sont aussi fonction d'un paramètre qui est essentiel, c'est la température de la Méditerranée. Et on voit très bien qu'on a un gradient de température qui monte jusqu'à plus 6,5 degrés. Par rapport à la normale. Donc, en fait, plus on a une eau chaude, plus on a une réserve potentielle d'énergie et de vapeur, plus les pluies seront diluviennes. Donc ça, c'est un petit peu l'autre verre de la médaille à laquelle il va falloir s'attendre dès le mois de septembre-octobre. Et puis, en fait, les zones qui vont être saturées en eau parce qu'il y aura trop d'eau seront vraiment circonscrites aux zones de pluie. Tout le reste, finalement, des autres secteurs de la métropole continueront à vivre des sécheresses. Et en 2017, la sécheresse s'était arrêtée le 26 décembre. On avait basculé en 2018 sur 3 semaines d'inondation de la Seine. Mais en réalité, je me rappelle très bien avoir parlé du sujet sécheresse historique et d'avoir basculé sur finalement l'opposé.
Mais on est vraiment dans des nappes qui sont à un niveau, une nappe phréatique historiquement bas aujourd'hui,
oui.
Alarmant.
Oui, et alors, en fait, on n'est pas tous égaux par rapport à notre relation à l'eau. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on ne vit pas sur les mêmes substratums, c'est-à-dire sur la même géologie. Vous avez certaines zones dans lesquelles on va avoir des nappes très, très réactives autant aux sécheresses qu'aux pluies, donc finalement qui vont pouvoir se recharger très, très vite, alors que vous avez d'autres nappes qui vont, au contraire, tenir très longtemps. Le bassin parisien est situé sur... Il y a une nappe fossile sous le bassin parisien qui pourrait nous permettre de tenir 20 à 25 ans, alors que dans d'autres zones, on est dans des situation à la limite de ce point zéro, on voit des camions citernes qui sont en train d'alimenter le territoire.
Mais qu'est-ce que c'est qu'un point zéro? Alors pour une région, une agglomération ou un département, en fait.
C'est le moment où il n'y a plus d'eau au robinet. C'est-à-dire que le moment où, à un moment donné, on a usé tous les moyens qu'on avait en notre possession, que ce soit lorsqu'on réserve de l'eau en amont, à travers des barrages, à travers des retenues. Et en fait, si vous voulez, cette eau-là n'est plus là. Et à ce moment-là, le seul recours qu'on a, c'est de faire appel aux autres, à travers des camions.
De faire venir de l'eau, quoi, en fait.
Exactement.
Ou de pomper un lac, comme c'est ce qui se fait à Gérardmer dans les Vosges.
Exactement. On va aller chercher l'eau là où elle est et on va l'amener dans les tuyaux qui permettront d'alimenter en eau potable.
Et là, ça veut dire qu'on va avoir besoin d'un hiver très neigeux et très pluvieux pour reconstituer ces nappes ou pas?
Eh bien, j'aurais eu tendance à vous dire ça quand on regarde sur le plan logique. Le réflexe, c'est de dire,
il va bien neiger cet hiver, on croise les doigts, et puis ensuite ça va fondre, ça va redescendre dans les sols, et on sera tranquille.
Sauf qu'en réalité, c'est pas ce qui se passe, et quand on analyse dans le détail ces 5 dernières années, on se rend compte qu'en 2018, 2019 et 2020, on avait des recharges excédentaires l'hiver. On a démarré l'été en étant vraiment confiant. En 2018, on avait eu ces grandes inondations de la Seine, on avait vraiment une France très arrosée, et donc on avait 30% de plus dans nos aquifères. Et il a suffi de canicules, il a suffi de températures au-dessus de la normale pour que, peu à peu, on réatteigne le même résultat.
Alors, question, Joël, Elina, Charles, Claire, Joël.
J'ai une question un peu basique. On parle souvent de la consommation d'eau potable, le robinet, mais je sais que la France est un gros consommateur d'eau en bouteille et d'eau minérale, et j'aimerais savoir quelles conséquences ça a. Est-ce qu'on peut faire le lien entre les deux, justement notre consommation d'eau, je dirais, au robinet, et puis la consommation d'eau en bouteille?
Alors, ce qui est sûr, le problème de l'eau en bouteille, c'est le plastique, c'est le transport, c'est le fait d'aller chercher de l'eau bien loin d'où vous habitez, et finalement de transporter de l'eau via du plastique, c'est le plastique que vous ingérez. Enfin, il y a quand même pas mal de problèmes qui font qu'à un moment donné, il va peut-être falloir se poser la question de l'eau en bouteille. D'ailleurs, il y a des start-up qui naissent aujourd'hui, qui sont super intéressantes, qui vous permettent de mieux filtrer l'eau. Parce que le problème de notre rapport à l'eau, c'est presque un problème émotionnel, c'est le problème de goût, c'est le problème de sensation, on n'a pas envie de sentir le chlore. Et donc, pour ça, il existe des solutions pour purifier l'eau et localement pouvoir utiliser l'eau parce qu'elle est bonne, elle est de bonne qualité, elle est mesurée en permanence avec des critères plutôt vraiment très pointus. La seule chose qui nous manque, si vous voulez, c'est la manière de la transformer. Donc, je pense qu'on ira de plus en plus dans les années à venir vers des solutions développées sans doute dans l'électroménager pour qu'on puisse récupérer de l'eau et la transformer dans une autre boisson avec un goût qui ressemble au goût de l'eau de montagne.
Joël, attendez, pour compléter la question de Joël, je vois que du côté de la région de Volvic, on estime qu'aujourd'hui, les industriels de Volvic pompent trop dans les nappes phréatiques, dans la source, pour faire cette eau. Est-ce que là aussi,
c'est
on
pas
a
bon
besoin
en plus, là,
alors là, moi, je suis un foutu de reconnaître les autres eaux minérales.
Ah bon.
Est-ce qu'on a besoin d'avoir autant d'eau minérale et d'aller puiser autant dans...
Non, c'est ce que je dis, c'est qu'à un moment donné, on arrive à un système. Ils le savent très bien que le système est à bout de souffle. Donc, ils le savent très bien, ils continuent. D'ailleurs,
donc,
on voit très bien qu'il y a certaines marques.
Donc, il y a une responsabilité industrielle aujourd'hui.
Regardez le marketing d'Evian, il est en train de se transformer. Il essaye de vous proposer de grands cubis d'eau beaucoup plus importants pour réduire le taux de plastique. Il essaye justement de vous expliquer à quel point il modifie les types de plastique utilisés.
Oui, mais on utilise du plastique, mais on pompe quand même.
Mais on continue à pomper.
Parce qu'on vend des millions et des millions de bouteilles de minérales.
À partir du moment où on est sur une économie, en fait, on pompe de l'eau. Mais on peut parler des usines, justement, de cette industrie de l'eau en plastique, mais on pourrait parler de tellement d'autres choses qui utilisent de l'eau. En réalité, il faut comprendre que tout utilise de l'eau dans nos vies. C'est-à-dire que nous, autant que l'on est, on utilise entre 5000 et 7000 litres d'eau par jour. On l'utilise de l'eau derrière ce que l'on mange, parce que pour une kilocalorie, il faut à peu près un litre d'eau. Plus on va rajouter de parts carnées, plus on va avoir d'eau consommée. Et puis, vous rajoutez à ça vos habits. Il faut savoir qu'aujourd'hui, en Inde, chez les petits agriculteurs locaux, on vient chez eux avec des camions-citernes, non pas pour récupérer leur agriculture, mais pour récupérer leur eau, pour alimenter en fait des usines textiles à côté qui vont ensuite polluer massivement les nappes et les populations, tout simplement parce qu'il va falloir les assumer, les 18 collections de fringues qu'on reçoit chaque année. Et donc, en fin de compte, derrière tous nos modes de consommation se cache de l'eau, même derrière le pétrole, derrière le gaz, le charbon, il faut d'énormes cuves d'eau. Donc en fait, la Chine s'est même retrouvée, lorsqu'elle n'a plus eu assez d'eau l'année dernière avec une sécheresse historique, à ne même pas pouvoir exploiter son charbon. Elle a dû faire appel au gaz liquéfié qatari. Donc on voit qu'en fin de compte, c'est que des réactions en chaîne. Et cette interdépendance de nos sociétés, elle est liée aussi.
Donc le temps de l'abondance de l'eau est terminé.
Je pense.
Et alors, selon vous, qu'est-ce qu'il faudrait faire très concrètement?
Ce qu'il faudrait faire, c'est essayer de repenser qui sont les utilisateurs de l'eau, ce qu'ils consomment, est-ce que ce système, on peut le continuer, jusqu'à où ? On parle beaucoup de la question du maïs, c'est une vraie question qu'il faut se poser, parce que le maïs, c'est un graminé tropical, mais il n'est pas du tout fait pour être finalement exploité sur nos terres. Et en plus, qui n'a pas de racines profondes, donc qui a besoin d'être alimenté par de l'irrigation. Donc il va falloir pomper massivement dans les nappes ou dans les rivières pour pouvoir l'alimenter. Est-ce qu'on peut continuer comme ça? Le problème, c'est qu'on a une interdépendance avec le maïs. Alors 70% va servir à l'alimentation bovine, donc on peut réduire notre part carnée. Mais ensuite, il y a tout le monde de la cosmétique qui en a besoin, le monde de la papeterie qui a besoin d'amidon. Comment, à un moment donné, on recrée un modèle en essayant de pallier à nos insuffisances? Parce que ce que ça nous montre, c'est juste qu'on est tellement interdépendant à cette nature que quand, à un moment donné, elle vient à s'effondrer, ça nous pose problème. Et on est trop gâtés. Il faut savoir que la France est un pays tempéré qui reçoit plus de 512 milliards de mètres cubes d'eau chaque année, habituellement. Donc, en fait, on n'est absolument pas prêt parce qu'on ne s'est pas préparé depuis des années.
Mmh. En tout cas, dans le premier sujet, j'ai essayé de le dire, ça. Que c'est vrai, on est
devant le micro, Elina.
Vous les auriez écoutés. Apparemment, pourquoi pas prendre 3 bains par jour?
Oh non.
Non, mais c'était presque
un
ça.
Par semaine. Hein.
Moi, j'avais une question.
C'est de la délation.
J'ai un côté communiste, hein, faut pas oublier.
Vas-y, Elina, question.
oui, en fait, je voulais savoir ce que je voulais. Vous avez beaucoup lu, en fait.
Oui.
Et qu'est-ce que vous avez à dire à ces agriculteurs qui refusent, pour des raisons évidemment économiques, les restrictions d'eau? Je voulais vous poser, parce que eux, sinon ils crèvent.
Alors, les restrictions d'eau, et deux, est-ce qu'il faut faire des bassins de rétention ou pas? Et c'est la question qui fâche celle-là toujours aussi. Alors, allons-y pour les deux questions.
Alors,
les restrictions et les bassins de rétention.
La première, moi je comprends complètement que ce soit un modèle économique et qu'ils aient besoin pour pouvoir survivre d'avoir ce modèle économique. Et d'ailleurs, juste en parallèle, ce modèle économique est aujourd'hui en train de se confronter à d'autres modèles économiques. Qui est-ce qu'on privilégie en premier? Regardez le lac de Serre-Ponçon. Est-ce qu'on privilégie l'alimentation électrique de nos populations avec des lâchers de barrages? Est-ce qu'on privilégie l'activité nautique parce qu'il y a des gens qui vivent à l'année uniquement sur quelques mois de cette activité touristique et on a besoin de garder l'eau? Et puis ensuite, est-ce qu'on donne de l'eau en aval à l'agriculture? Donc on voit bien qu'en fin de compte, tout le monde est en train de se confronter. Et c'est là, il va falloir faire des choix, il va falloir peut-être modifier nos modes de plantation. Utiliser le sorgho, par exemple, a besoin d'énormément de chaleur et de très peu d'eau. Eh bien, c'est quelque chose qui pourrait venir pallier à ce problème. En fait, on est un peu dans un mythe où il faut comprendre que avec la PAC, avec ce qui s'est, la manière dont s'est déroulée l'agriculture européenne, on a favorisé dans l'après-guerre toutes les zones de maïs. C'est-à-dire c'était un peu le jackpot. Quand on exploitait le maïs, eh bien finalement, on avait tellement de primes que c'était extrêmement intéressant et tout le monde s'est massivement lancé dedans. Et donc, bien entendu, toutes les filières sont devenues dépendantes de cette activité massive qui était rentable et lucrative. À l'heure d'aujourd'hui, il faut quand même se poser des questions. Il faudra peut-être que l'Europe aide la reconversion. Peut-être que ça demandera aussi des années de jachère, parce qu'il y a un autre problème dans l'agriculture aujourd'hui dont on ne parle pas assez. C'est qu'on a des terres qui sont tellement pauvres en matière organique, qui sont tellement vidées de toutes leurs substances avec ces couches de pesticides qu'on leur passe en permanence, que si vous voulez, eh bien, à un moment donné, il n'y a plus de vie. Et s'il n'y a plus de vie, il n'y a plus possibilité à l'eau de pénétrer dans les sols. Et donc, nos réserves ne se rechargent pas. Et il faut savoir une chose, on a toujours l'impression que lorsqu'il va y avoir une nouvelle pluie, bien toute cette pluie va venir recharger les nappes, hop, c'est bon, c'est fini, on passe à autre chose. En réalité, sur 100% de pluie, vous avez qu'en moyenne 9% qui s'infiltrent. 9%, c'est dans le cadre idéal, c'est-à-dire dans un cadre où on a un sol qui est en bonne santé, qui peut permettre de récupérer de l'eau. Donc aujourd'hui, on a créé des sols imperméables partout, dans les villes, avec l'artificialisation des sols, mais aussi dans nos campagnes. Et donc, c'est ça qu'il faut modifier, c'est-à-dire qu'il faut rejouer avec le cycle de l'eau en récupérant cette eau. On a aussi perdu nos zones humides. Les zones humides, c'est ce qui permet de recréer des pluies, des petits cycles de l'eau. Donc en réalité, comme on a absolument plus, on a perdu jusqu'à 80% suivant les endroits de ces zones humides, parce qu'à un moment donné, ça nous posait problème, c'était assimilé à des maladies. Donc en réalité, on avait tendance à assécher, et puis surtout, on gagne du terrain si on assèche tout ça.
Foncier.
Et donc, voilà, on gagne du foncier. Donc c'est toujours une question, finalement, de manière de forçage, j'ai envie de dire, économique, qui font qu'à un moment donné, le territoire évolue. Sauf que là, on est en train de le payer assez cher. On n'a même plus cette rosée, c'est-à-dire cette eau qui transpire dans nos sols, on ne l'a plus. Et donc, à la moindre pluie, on voit très bien que l'eau ruisselle directement. Et si vous prenez ces 5 dernières années, 50% des gens qui ont été sinistrés aux inondations le sont en dehors des zones inondables. Ça nous pose quoi comme question? Ça pose la question du fait que c'est plus tant les zones inondables qui posent problème. C'est là où le nuage arrive. Et donc, à ce moment-là, il faut aussi repenser la manière dont on va protéger ces populations. Donc, c'est un petit peu tout ça à laquelle il va falloir agir. Deuxième question.
Ouais. Les bassins de rétention, ouais.
Alors, les bassines, c'est une fausse bonne solution. Je ne vais pas me faire que des amis en disant ça. C'est déjà le cas depuis quelques mois. Mais en fait, si vous voulez, c'est une solution qui va permettre de tenir pendant 5 ans. C'est-à-dire qu'on va vider la nappe au fur et à mesure du temps. Ce que l'on nous dit, c'est on remplit finalement nos bassines, c'est simplement de grandes piscines en PVC, avec un fond PVC, complètement déconnecté du sol, consommé à évaporation massive en permanence. Et donc, en fin de compte, on va extraire l'eau de la nappe l'hiver pour la garder. Pourquoi on la garde? La seule raison pour laquelle on la garde, c'est que quand on est en période de crise comme aujourd'hui, avec arrêté préfectoral, celui qui a une bassine, il peut continuer à irriguer. Celui qui n'en a pas, il ne peut pas s'interdire. Donc en réalité, c'est juste un tour de passe-passe qui nous permet de basculer et de finalement pouvoir continuer à exploiter son agriculture, mais aussi son économie propre, parce que les gens dépendent aussi de cette économie, et je le comprends. Le problème, c'est que si on fait ça, à chaque fois, on rebaisse le niveau de la nappe. La nappe est toujours plus fragile, elle se remobilise en profondeur, elle se transforme, et à la fin, elle ne pourra plus se remplir. Et donc, pourquoi je dis à un moment donné c'est une mauvaise solution? C'est que c'est pas ce qu'il faut faire. Il faut absolument transformer la qualité des sols. Il faut permettre à l'eau de pénétrer. On peut créer des petites retenues d'eau, mais c'est des retenues qui vont garder les eaux de pluie. Ce sont pas des retenues qui vont aller chercher l'eau dans la nappe. Parce que si vous prenez cette eau de la nappe, eh bien, lorsque le niveau de la rivière va chuter, elle s'appuie sur la nappe. Quand vous avez de l'eau dans une rivière, c'est l'eau de la nappe lorsqu'il pleut pas. Et donc, en fin de compte, elle va être deux fois plus vite à sec. Et c'est tout le vivant autour de la nappe qui meurt massivement et qui est complètement à l'agonie. Quelle société on a envie de créer? Est-ce qu'on peut comprendre à un moment donné que si à un moment donné tout ça meurt, eh bien en réalité c'est toute une chaîne trophique, ouais. Et à la fin c'est notre saumon qu'on n'a plus dans notre assiette. Donc il va falloir réfléchir autrement.
Claire?
Oui, moi je voulais vous poser, j'avais deux questions à vous poser. Déjà sur la gestion de l'eau, à partir du moment où c'est les communes ou les intercos qui le gèrent, est-ce que ça permet justement d'avoir une autonomie sur toute la France, de voir comment on va gérer l'eau? Moi, pour moi, je dirais non, hein, puisque ça va dépendre. Et également la qualité de l'eau maintenant, puisque les nappes n'ont jamais été aussi basses, et l'eau qui n'a jamais été pompée jusqu'à maintenant est pompée avant qu'elle s'assèche. Et là, ce que l'on a quelquefois quand même dans les robinets, ou même que l'on met, l'eau n'est plus du tout de la même qualité. Et là, c'est un véritable problème aussi.
Ouais, vous avez une minute.
Je pense qu'on a quand même, en général, c'est vraiment très bien calibré. Si vous avez de l'eau à votre robinet, c'est qu'elle est gérée en France. On n'est pas dans le cas de l'Inde où quand on pompe tellement puissamment en profondeur qu'on récupère de l'arsenic.
Oui, mais vous avez beaucoup plus calcaire à un endroit ou l'autre, et c'est de plus en plus.
Mais
on
a plus de calcaire
aujourd'hui,
parce que c'est vraiment lié au milieu naturel qui amène plus de calcaire. Il faudrait peut-être mettre plus de filtre. Donc, en fait, ça c'est pas tellement le problème. Le problème que vous posez, il est essentiel, c'est que les collectivités gèrent l'eau, les collectivités ou les systèmes privés. D'ailleurs, ils essayent de le gérer le mieux possible, sauf que l'eau paye l'eau. Ça signifie quoi? Ça veut dire que les consommations d'eau, en fait, permettent de payer ensuite le fait de remettre à jour les tuyaux, tous les systèmes de fuite. Et en fin de compte, si on demande à tout le monde massivement de diminuer sa consommation d'eau par deux, eh bien, à la fin, la facture, elle est divisée par deux. Et c'est autant d'argent qu'on a en moins pour mettre à jour tous ces réseaux et pour pouvoir les entretenir. Et donc, c'est aussi ça le problème pervers, c'est que les villes n'ont pas tellement envie aujourd'hui que vous économisiez d'eau, puisque finalement, elles perdent de l'argent. Donc, le seul moyen, c'est d'alimenter les villes financièrement autrement pour qu'on puisse malgré tout diminuer cette eau et finalement malgré tout être économe et que tout le monde s'y retrouve.
C'est foutu ?
Non, mais il y a tellement de choses à mettre en œuvre, il faut les mettre en œuvre.
Ouais. C'est donc la volonté politique.
Bah, il va falloir agir.
Il faut qu'on apprenne à titre individuel à être raisonnable.
Oui, mais à la limite, nous, notre eau domestique, elle est encore tellement minime. Elle a un rôle, mais elle est minime. Il va falloir jouer sur l'agriculture, l'industrie. Est-ce que des systèmes peuvent faire durer comme ça? Il faut se poser les bonnes questions, c'est ce que je dis.
Merci Emma Aziza de nous avoir fait ce tour d'horizon de l'eau et de ses enjeux aujourd'hui dans les GG.